Alors, la semaine dernière, pour la prédication, nous avons lu un texte du prophète Malachie dans l'Ancien Testament, un texte où Dieu parle sur un ton assez dur et même assez ferme avec son peuple, Israël. Aujourd'hui, nous lisons un texte du Nouveau Testament et le ton du texte est assez similaire. Jésus parle d'une manière directe et percutante à ses auditeurs. On dit souvent que, généralement, on pense que l'Ancien Testament, on a un Dieu qui se révèle de manière un peu plus sévère, et dans le Nouveau Testament, un Dieu qui se révèle avec plus de grâce. Je pense qu'il y a en fait la grâce et la fermeté dans les deux parties de la Bible, et on va le voir un peu aujourd'hui. Alors pourquoi ce texte aujourd'hui ? Alors, n'y voyez pas une intention particulière de faire passer un message à une ou plusieurs personnes en particulier. J'ai simplement choisi ce texte car on m'a récemment demandé des explications sur l'interprétation de ce passage. Et donc, je me suis dit que cela pourrait être intéressant de l'aborder en prédication. Il s'agit d'une parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. Alors je vous lis juste les deux versets concernés, ensuite on verra de manière plus large. C'est lorsque Jésus dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Cette parole fait partie d'un discours de Jésus prononcé à la fin de son sermon sur la montagne. Et je reconnais que ce passage est troublant. Pour mieux le comprendre, nous allons lire l'ensemble du paragraphe afin d'avoir le contexte. En général, pour bien interpréter un ou plusieurs versets, il est nécessaire d'étudier le contexte. Donc c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 29. Matthieu 7, 13 à 29. Donc il s'agit de la fin du sermon sur la montagne, un sermon que Jésus a prononcé devant une foule. Il me semble que son enseignement était à l'origine destiné à ses disciples, mais au fur et à mesure de son discours, la foule s'est jointe à eux. Donc Jésus dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent tous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Ce discours est construit en quatre parties, quatre avertissements. À chaque fois, Jésus nous invite à faire le choix, à faire un choix entre deux options. Dans notre société, on aime bien avoir beaucoup de choix. Les paroles de Jésus peuvent donc paraître restrictives, avoir seulement deux choix, des paroles fermées. On verra que même si son discours est sévère, il y a de la bienveillance dans ses mises en garde. Regardons le premier avertissement. Le premier avertissement concerne les chemins larges ou étroits. Et il nous invite à prendre le bon chemin. Premièrement, le bon chemin. Jésus parle de deux portes et de deux chemins. Il y a une porte et un chemin qui mènent à la vie, et une porte avec un chemin qui mène à la perdition. Il n'y a que deux possibilités, la vie ou la perdition. Le chemin qui mène à la vie est étroit, et trop peu de gens les trouvent. Jésus affirme que le chemin du salut est étroit. Le chemin qui mène à la vie est un chemin difficile, un chemin que peu de gens prennent, un chemin qui va à contre-courant de la pensée générale. En tant que chrétiens, nous avons parfois l'impression d'être des extraterrestres. Nous vivons dans le monde, nous côtoyons le monde, nous sommes appelés à aimer le monde, tout le monde, mais nous sommes citoyens du ciel et nous sommes appelés à vivre pour plaire à Dieu et non aux hommes ou à nous-mêmes. Jésus met ses auditeurs en garde. La porte et le chemin qui mène à la perdition sont spacieux. C'est par là que beaucoup de gens passent, au point que cela devienne la norme. Si nous avons décidé de suivre le chemin étroit, nous sommes appelés à résister pour ne pas toujours penser et agir comme la norme. C'est peut-être la norme de suivre les modes dans le domaine éthique, de parler en mal de ceux qui ne sont pas là, d'écraser les autres pour s'élever, de ne pas faire attention à celui qui est dans le besoin, ou de croire que Jésus, la foi en Jésus, c'est idiot ou dépassé. Mais le chemin étroit consiste à vivre selon les valeurs enseignées dans la Bible, à aimer nos ennemis, à servir notre prochain et surtout à suivre Jésus qui enseigne toutes ces choses. On peut remarquer qu'il y a d'abord une porte, ensuite un chemin. Suivre Jésus ne consiste pas seulement à faire une prière de conversion un jour dans notre vie, comme s'il fallait juste franchir une étape. Suivre Jésus consiste à vivre jour après jour dans sa volonté, dans la volonté de Dieu. Le christianisme n'est pas une croyance où l'on obtient le salut en faisant quelque chose, juste en faisant quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de passer par une porte. Il s'agit aussi de marcher sur un chemin parfois difficile, un chemin pas toujours attirant à première vue. Mais Jésus nous affirme que c'est pourtant le bon chemin, celui qui mène à la vie. Ensuite, il nous parle des faux prophètes. C'est son deuxième avertissement. Un prophète est une personne inspirée par Dieu qui parle en son nom dans une situation donnée. Un prédicateur à qui Dieu a mis des paroles à cœur pour qu'il les proclame à une assemblée peut par exemple être considéré comme un prophète. Selon la définition de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, le prophète est celui qui édifie, encourage et réconforte. 1 Corinthiens 14, verset 3. Selon Paul, le prophète, c'est celui qui édifie, encourage et réconforte. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes. Ils ont l'apparence de brebis alors qu'ils sont des loups. De l'extérieur, les faux prophètes peuvent ressembler à des bons fidèles. Un faux prophète peut très bien être membre d'une église locale. Il peut faire de belles prières et bien parler en public. Il dit même souvent des paroles qui plaisent. Cependant, met-il en pratique l'enseignement biblique? Quels sont ses fruits? Je ne parle pas du chrétien sincère qui est encore en lutte avec des péchés, mais de celui qui se déclare disciple de Jésus et qui vit de manière contraire à sa volonté en toute conscience. Dans ce cas, on pourrait se poser des questions sur l'authenticité de son engagement. Là encore, Jésus ne parle que de deux types d'arbres, celui qui porte de bons fruits ou celui qui ne porte pas de bons fruits. Au verset 19, Jésus dit ceci: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Nous reviendrons sur ces paroles qui concernent le feu. En attendant, regardons la suite. Troisième avertissement, Jésus parle du croyant sincère. Après avoir parlé premièrement du bon chemin et deuxièmement du vrai prophète, il parle du croyant authentique. Jésus parle des personnes qui disent « Seigneur, Seigneur ». Il parle de ceux qui ont prophétisé, chassé des démons et fait des miracles en son nom. Mais Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ». Dans certaines traductions, au lieu d'avoir l'expression « commettre le mal », nous avons « commettre l'iniquité ». C'est le fait de vivre comme si Dieu n'avait pas donné de commandement. Celui qui vit comme si Dieu n'avait pas révélé sa parole, Dieu lui dira « Je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui vis comme si je n'avais pas révélé ma parole ». Par définition, quelqu'un que l'on ne connaît pas est un inconnu. Alors en fait, Dieu connaît tout le monde, mais c'est une manière de dire que celui qui ignore Dieu est en quelque sorte un inconnu pour Dieu. Et ce qui est troublant dans ces versets, c'est que ces gens qui commettent le mal ont fait des miracles. Comment cela est-il possible? Un croyant superficiel, autrement dit un incroyant, peut-il opérer des miracles au nom de Jésus? Ce passage met bien en évidence que lorsqu'une prophétie est proclamée, ou lorsqu'un miracle est accordé, cela vient surtout de Dieu et pas de la personne que Dieu utilise. Dans l'histoire d'Israël, Dieu a parlé à travers des incroyants. Il a même utilisé un âne pour transmettre des messages. Cela devrait nous rendre prudents lorsque nous voyons des gens faire des choses spectaculaires au nom de Dieu. Il arrive encore aujourd'hui que des personnes qui ont beaucoup de charisme soient considérées presque comme Dieu ou des dieux. Leurs paroles sont considérées comme des révélations d'une fiabilité équivalente à celle de la Bible. Mais toutes les choses spectaculaires qui arrivent à travers des personnes ne disent rien à propos de leur relation avec Dieu. Par ailleurs, notons ici que Jésus parle de manière hypothétique. Les gens dont il parle poseront la question : n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Il pose juste la question : mais ont-ils vraiment fait des miracles qui viennent de Dieu ? Dans tous les cas, ce que Jésus veut mettre en avant, c'est que là encore, il n'y a que deux possibilités. Au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Il y a d'une part ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, et d'autre part ceux qui la font. Encore une fois, le discours de Jésus est ferme et ses paroles sont dures à entendre. Il y a tout de même des marques de bienveillance. Mais avant d'y venir, passons au quatrième et dernier point. Après avoir parlé du bon chemin, du vrai prophète et du croyant sincère, Jésus parle du sage et du fou. Le sage, l'homme prudent dans notre traduction, construit sa maison sur le roc. Ce passage est bien connu grâce à une chanson, « Le sage sur le roc a bâti sa maison ». Le sage construit sa maison sur le roc. La tempête arrive et la maison tient. Le fou, l'imprudent, construit sa maison sur le sable. La tempête passe et la maison tombe en ruine. J'entends souvent dire que le roc, c'est Jésus. Et la tempête représente les épreuves de la vie. Mais que dit le texte exactement ? Verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Dans le texte, le rocher, ce n'est pas Jésus, mais c'est le fait de mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Depuis le début, il parle de mise en pratique. Il faut passer par la porte étroite, et cette porte est suivie par un chemin d'obéissance. Ensuite, il parle des bons fruits. Ce sont les bonnes œuvres, les œuvres bonnes. Ensuite, il dit clairement que le royaume de Dieu est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Et il termine en disant que mettre en pratique son enseignement, c'est construire notre maison, notre vie, sur du roc et non sur du sable. Obéir à Dieu, c'est sage. Désobéir à Dieu revient à construire sa maison sur du sable, c'est de la folie. En effet, une maison sur le sable ne résiste pas à la pluie et à la tempête. Jésus nous invite à la sagesse pour éviter d'être ravagé par la tempête. Mais qu'est-ce que cette tempête ? Regardons le texte dans le contexte. À chaque fois, Jésus parle du jugement de Dieu et à chaque fois, il y a deux issues possibles. Il y a le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Il y a un arbre qui est gardé et un arbre qui est coupé et jeté au feu. Il y a celui qui entre dans le royaume de Dieu et celui à qui Dieu dira « Je ne t'ai jamais connu et éloigne-toi de moi ». Les versets 22 et 23 sont au futur. Jésus dit bien, beaucoup me diront ce jour-là, beaucoup me diront au futur ce jour-là. Seigneur, Seigneur, de quel jour s'agit-il ? Jésus fait certainement référence au jour où chacun comparaîtra devant lui. Selon le contexte, la tempête symbolise non pas les épreuves de la vie, mais le jugement à venir. Et cela coïncide aussi avec les images que les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient. Le prophète Ésaïe, par exemple, comparait le jugement de Dieu à une inondation. Ce jour-là, le jour du jugement, le sage qui aura construit sa maison sur le roc gardera sa maison saine et sauve. Il aura la vie sauve. Mais le fou qui aura construit sa maison sur le sable, Jésus dit au verset 27 que sa maison s'écroulera et que sa ruine sera grande. Jusque maintenant, nous avons constaté le côté sévère, ferme du discours. Où est la bienveillance ? C'est ce que j'aimerais relever maintenant pour conclure. Je vous suggère de lire ce discours comme un avertissement bienveillant. Jésus nous informe qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Mais dans ses paroles, il ne condamne encore personne. Il parle en parabole. Il parle de chemin, d'arbres et de maisons. Ces paraboles sont racontées afin que nous choisissions la vie. Dans son introduction, Gilles à parler d'un Dieu qui vient nous secourir. Il veut nous secourir. Jésus veut que nous prenions le bon chemin, que nous portions du fruit et que nous construisions notre maison sur le roc. Et c'est pour cela qu'il nous avertit, qu'il nous donne, qu'il proclame ses paroles pour que nous fassions les bons choix. Quand je dis à mon fils que s'il touche la plaque chauffante, il va se brûler, je ne le condamne pas, je l'avertis, parce que je ne veux pas qu'il se fasse mal. De même, si Jésus parle de manière si ferme, c'est parce qu'il ne veut pas que nous fassions les mauvais choix. Si vous voyez quelqu'un se diriger droit dans un précipice, vous n'hésiterez pas à crier, à l'avertir du danger de mort, afin de lui sauver la vie. C'est ce que Jésus fait ici. C'est par amour pour nous que Jésus proclame de manière transparente le royaume de Dieu. Voici ce que nous lisons en Jean 3, versets 16 et 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans ce verset, il y a aussi les deux chemins. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'intention de Jésus, en venant dans le monde, c'est bien d'offrir le salut vis-à-vis du jugement. Le jugement est bien réel, et c'est justement pour cela que Jésus est si insistant. Construisons notre maison sur le roc. Jésus veut sauver l'humanité, et c'est pour cela qu'il nous avertit. Nous avons des choix de vie à faire, une relation avec Dieu à approfondir. Construisons notre maison sur le roc, et lorsque la pluie tombera, lorsque la tempête arrivera, notre maison résistera. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu vois l'humanité se diriger vers la mort. Et à cause de cela, par amour pour le monde, tu cries. Tu es venu et tu as parlé en avertissant la foule, les contemporains, ton peuple. Et cela arrive jusqu'à nous, ta révélation, ta parole arrive jusqu'à nous aujourd'hui, et tu nous invites à faire preuve de sagesse. Seigneur, nous ne savons pas être sages par nous-mêmes, alors viens agir en nous par ton esprit, et que nous puissions, jour après jour, marcher sur ce chemin qui est peut-être étroit, mais qui mène à la vie, et qui nous donne, qui nous accorde la paix, parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu es un Dieu qui parle en toute transparence, par amour pour nous. Merci parce que tu souhaites que notre maison tienne face à la tempête. Merci parce que aujourd'hui nous entendons ta parole et ton esprit est à l'œuvre. Alors nous te demandons que ton esprit soit encore à l'œuvre et que tu te révèles à beaucoup afin que chacun, ceux qui entendent ta parole, puissent la mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Merci parce que nous savons que le secours et la grâce nous viennent de toi. Amen.